Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Dans cet épisode, on va parler de transmission et de relations intergénérationnelles avec ma femme d'aujourd'hui, mais à travers elle, ces trois générations de femmes que nous allons essayer de comprendre. On y va pour les détails.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Wahiba Yachou, bonjour. Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment va Wahiba? Comment ça va, pardon?
Merci beaucoup pour l'invitation, Yasmine.
Je vais bien. C'est un plaisir de vous avoir. Alors, vous êtes installée en Belgique. Vous faites beaucoup de création de contenu, mais il y en a un que moi j'adore. Et je pense que c'est en quelque sorte une Madeleine de Proust pour beaucoup d'entre nous. C'est justement Tqsira Wid Henna. Comment va Henna?
Henna, oui. Ben, actuellement, j'avoue que Henna est très, très, très fatiguée.
C'est vrai?
On va être honnête.
Ouais.
On vient de marier ma tante. Et donc là, elle est assez fatiguée de se remettre des émotions du week-end.
Se remettre des émotions du mariage.
Ouais.
C'était sa fille la plus jeune.
Non, c'était ma tante qui se remarie en fait.
Ok, d'accord. Alors.
Donc, c'est une des plus âgées.
Ouais. Alors justement, Wahiba, vous êtes installée en Belgique, mais l'identité, la culture marocaine est très présente dans votre création de contenu.
Une vraie belgo-marocaine, les deux cultures. Si vous entendez mon accent, c'est un accent de Bruxelles. C'est, quand je parle français, c'est bruxellois. Donc, il y a vraiment les deux cultures qui sont liées en moi. Enfin, je ne sais pas me séparer des deux, ce n'est pas possible. Mm. Donc, c'est vraiment belgo-marocaine.
Vous êtes née en Belgique?
Je suis née à Bruxelles. Je suis née à Bruxelles, j'ai grandi à Bruxelles. Et donc, j'ai connu le Maroc par les vacances et la culture à la maison.
Culture à la maison, j'imagine, très présente.
Très, très présente, oui. Et j'en suis très fière et très contente qu'on n'a rien perdu en termes de culture chez moi à la maison.
Alors, par rapport à ça, justement, votre grand-mère, vous avez grandi avec elle?
J'ai grandi avec elle. On va dire que ma mère a divorcé quand j'avais 2 ans. Okay. Et évidemment, elle devait évidemment travailler, etc. Donc, je passais plus de temps avec ma grand-mère. Et aujourd'hui, en fait, ma grand-mère habite au rez-de-chaussée et moi, j'habite au 3e étage du même bâtiment, de la même maison. Donc, on n'a jamais été très loin, en fait. Sauf quand je partais à l'étranger, mais je veux dire, je n'ai jamais été très, très loin de ma grand-mère. Mm.
Alors, dans ce que vous faites, en fait, ces podcasts avec elle, ces discussions d'adage avec, justement, ces discussions avec votre grand-mère, j'ai l'impression que vous essayez, en quelque sorte, vous avez appelé ça Tqsira Wid Henna, vous essayez, en quelque sorte, en fait, de renouer avec cette part de la culture marocaine qu'elle incarne.
Non, pas que, en fait. Ici, c'est vraiment l'idée, on est différentes.
Oui.
J'ai des idées et on n'a pas les mêmes idées, elle et moi, parce qu'il y a la culture, parce que parfois il y a la religion aussi. Mais aussi, Tqsira Wid Henna, en fait, c'est né d'abord d'une question de souvenir. Parce que ma grand-mère nous filmait beaucoup, tous ses petits-enfants, mais on filme jamais ses grands-parents nous-mêmes. On ne prend pas le temps de les filmer. Donc moi, j'ai commencé par des stories et on commence à juste montrer des moments de vie. Et en fait, l'idée de Tqsira, c'était de prendre des sujets qui sont parfois tabous, sur lesquels elle et moi, on n'est pas forcément d'accord, et d'avoir la conversation. Mmh. Et aussi de comprendre pourquoi elle pense comme elle pense et lui faire comprendre pourquoi moi, je pense comme je pense. Généralement, on dit que les adultes, on n'échange pas. Et si on a une personne qui s'est quand même remis en question, dépend des sujets, parce que Tqsira, c'est 10 épisodes. Et on n'a pas la même vision du racisme. On n'a pas la même vision des nouvelles générations, évidemment. Et l'idée, c'était de se confronter, en fait, à... En fait, elle dit que je suis folle, par exemple. Et je dis, mais ma folie, elle vient de toi. Ma folie vient de toi et je peux te le dire à travers différentes choses. Parce que on est une famille de femmes. On a nos hommes sont partis très tôt. Mon grand-père est décédé. Hanna, j'étais veuf à 39 ans, ce qui est très très tôt. Et donc, j'ai un oncle qui est au Maroc et j'ai un autre oncle qui est décédé à l'âge de 14 ans. Donc, on a une autre manière de vivre. Et c'est pour lui faire comprendre ça, parce que parfois, elle disait, oui, les hommes vont arriver, il y a les hommes qui vont arriver, etc. Je dis, mais il n'y en a pas, donc on fait comment aujourd'hui? Toi-même, tu es la personne la plus indépendante que je connaisse, la plus autonome que je connaisse. Aujourd'hui, elle a 81 ans et elle doit garder son autonomie. Donc, pour cela, c'est pour ça que Starcella est née, c'était, je veux marquer... Nos discussions qu'on a dans la voiture, moi, ça confronte à des sujets qu'elle n'a pas l'habitude d'avoir, les mariages interculturels, avec différentes cultures et plein de choses comme ça. Et elle aime bien comprendre aussi pourquoi je suis célibataire à l'âge que j'ai, etc. Et l'idée, c'était vraiment de confronter des idées qui ne sont parfois pas en accord avec ce qu'on pense, elle et moi.
Et elle ne se rendait pas compte, en fait, que c'était elle, à travers aussi son vécu, qui vous a donné tout cet apport-là de femme indépendante?
Au fur et à mesure des conversations, elle s'en rend compte.
Ouais.
Elle s'en rend compte.
C'est une histoire de transmission.
Totalement. Totalement. Un des épisodes qui est dingue, c'est l'épisode de l'amitié. Parce que vu qu'elle a été jeune, elle s'est vraiment réconfortée dans le voisinage et, ouais, et les amitiés. Et Hanna, elle a des amitiés de 40 ans, 50 ans. Elle a des longues, longues amitiés. J'ai dit, tu sais que ça, c'est pas forcément toujours le cas aujourd'hui.
Ouais.
Je sais même pas dire les amitiés que j'ai de 10 ans. Donc, qui pourraient passer à 20 ans, passer à 15 ans, ou peu importe. Et en fait, c'est ça que je voulais aussi dire. C'est que moi, par exemple, la surprise que j'ai eu dans Parcella, c'était que... Enfin, c'est même pas la surprise. C'est que ce qu'on m'a dit... On m'a dit, finalement, les grands-parents, c'est pas ringard. Il y a des leçons à prendre. Faut leur donner la parole.
C'est loin d'être ringard, absolument. Absolument. Au contraire.
Ah, vraiment pas.
Ouais. Au contraire, elles sont belles, ces conversations que vous avez toutes les deux. Elles sont très, très belles. Ces deux générations assez éloignées l'une de l'autre, mais avec énormément de tendresse. Et l'amour et l'affection, c'est vraiment le fil conducteur de vos échanges. C'est toujours en filigrane, en fait.
C'est ça. On m'a dit aussi, oui, c'est très difficile d'avoir sur un plateau des grands-parents maghrébins, parce que il y a tout le délire de cacher, de rester pudique, etc. Et tout. Et je disais, mais les gars, je l'ai fait avec ma grand-mère. Ma grand-mère me fait confiance, donc. Enfin, ça, c'est déjà une première partie. Et la deuxième, c'est que on a enfin mis à plat certaines choses qu'on n'osait pas se dire. Comme tout, la vidéo, enfin la découpe qui a beaucoup marché, c'est quand Hanna dit je t'aime.
Oui.
Et effectivement, on n'a pas ça dans notre culture de le dire comme ça. On le dit pas comme ça, mais elle a pas le problème aujourd'hui à le dire tous les jours.
Exact.
Mais est-ce qu'elle a... changer.
Pardon de vous interrompre, Wahiba, mais est-ce qu'elle a aujourd'hui, est-ce qu'elle le dit à ses propres enfants ou c'est à ses petits enfants plutôt qu'elle est plus à l'aise avec ce mot?
Avec les petits-enfants. Elle le dit elle-même. Elle dit, je suis très dure avec mes enfants. Maintenant, maintenant que ma mère, ses filles, elles ont grandi, elle le dit. Mais elle le dit avec un ton un peu marrant. Elle n'arrive pas à rester sérieuse quand elle le dit à ses enfants.
C'est une forme de pudeur, en fait.
C'est une forme de pudeur.
En fait,
comme elle n'a pas eu la vie facile.
C'est ça. Mais en fait, par rapport à cette vidéo-là sur dire, est-ce que quand vous lui dites, est-ce que tu as déjà dit je t'aime à tes enfants, je pense que ça résonne avec énormément de familles marocaines, maghrébines. Et après, justement, alors il y a eu la génération des parents avec les grands-parents. Et il y a aussi ensuite le lien entre ces mères et leurs filles ou leurs enfants. À quel moment, pour vous, on a rompu en fait le cycle? À quel moment on est arrivé, nous, les Maghrébines, à dire à nos enfants « je t'aime ». Est-ce que c'est parce qu'on l'a reçu de nos parents qui n'ont pas reçu d'affection ou finalement chaque histoire est individuelle?
Moi, j'ai l'impression que c'est chaque histoire, parce que ma mère m'a toujours dit « je t'aime ».
Oui, même si elle ne l'a pas reçu.
Il y a eu un début après. Okay. Même si elle ne l'a pas reçu.
Ok.
Ma mère a toujours été très affectueuse. Pour être honnête, ma mère m'appelle encore mon petit chat maintenant. Mm. J'ai la trentaine. C'est gênant, parfois.
C'est vrai?
Mais ma mère m'appelle toujours mon petit chat.
Oui.
C'est trop marrant. Et je la laisse parce que, voilà, c'est sa forme d'affection et je la laisse. Mm. C'est vrai que je crois que quand on est allé au lycée et tout, on dit « Maman, arrête de dire ça, mais... » C'est gênant devant mes copains, mes copines. Mais non, ma mère l'a toujours été. Ma mère, elle écrit des lettres, voyait des moments, des anniversaires. Je reçois des cartes chaque année pour mon anniversaire. Ma mère écrit quelques phrases. Donc j'ai toujours eu l'habitude de ça, quand même, à la maison.
Mais elle a mal vécu, elle, de ne pas l'entendre, de ne pas l'avoir entendue enfant
Non, pas du tout.
Non.
Non, parce qu'elle dit que Hannah, en fait, sa manière de dire « je t'aime », c'était à travers d'autres choses. La nourriture, les rires. Elle savait que sa mère l'aimait. Mm. Elle n'avait aucun doute là-dessus. C'est pas parce qu'elle ne disait pas le terme « je t'aime » qu'elle était virulente ou méchante ou difficile. C'est juste que le terme, elle ne le disait pas.
Mais l'affection venait d'ailleurs, en fait.
L'affection était là, ouais.
Ouais.
Enfin, en tout cas, là, ouais, la nourriture, c'est vraiment un moment important aussi chez nous. Hein. Le fait qu'il y a une assiette, qu'il faut être tout là, tous ensemble. Il n'y a pas de « je te mets un plat de côté ». Il faut être là.
Il faut partager.
Oui, il faut partager. Mm. Pour échanger des moments de vie.
Wahiba, justement, vous avez grandi, vous l'avez dit, avec deux générations de femmes. Entourée de femmes, vous avez appris quoi de ces femmes, de votre famille?
Beaucoup de choses. Hein. C'est une formation continue. Mais je vais dire que... Ben, en tout cas, de ma famille, j'ai quand même appris à... Ben, déjà, c'était autonomie, malgré moi, parce que j'ai pas le choix. De mon côté aussi, moi, j'ai pas grandi avec mon père. Mes parents ont divorcé très tôt, donc je le voyais en quelques visites, donc déjà ça. Ça m'a poussé à l'autonomie énormément. Mais aussi, moi j'ai une famille qui demande à toucher à tout. L'art, la culture, apprendre à avoir des idées, à renforcer sa curiosité, etc. Moi j'ai vraiment une famille comme ça. Sur mes tantes, ma mère, Ohana, on nous pousse vraiment à la curiosité... à fond, à l'autonomie, ça c'est sûr. Et c'est plutôt dans ce sens-là.
Alors quand vous dites justement, je ne voyais pas beaucoup mon père, donc ça m'a poussé à l'autonomie. À quelle forme d'autonomie vous faites référence?
Disons que quand on voit autour de nous, c'était les hommes qui faisaient beaucoup de choses. Et en fait, ici, moi, j'ai dû faire beaucoup de choses moi, par moi-même et prendre des initiatives par moi-même, aller m'inscrire à certaines choses que ma mère ne pouvait pas tout faire non plus. Mm. On disait, généralement, on est accompagné par quelqu'un, ou accompagné par son père, ou accompagné par sa mère. Mais mon père, je pense que oui, j'ai eu quelques héritages de lui, mais en gros, la débrouillardise... Mm. Ça m'a imposé la débrouillardise, ça c'est sûr. Je suis quelqu'un qui a directement travaillé très tôt, j'ai eu mes jobs étudiants assez tôt, pour avoir mon propre argent, évidemment. Et donc, évidemment, on va dire l'argent, c'est une manière de construire. Mais moi, je l'ai commencé très tôt, où on attendrait avec ses parents un peu plus de temps, quoi, par exemple. Je pense aussi une certaine. Je suis quelqu'un qui dit qu'il y a... enfin, qui estime qu'elle peut rentrer partout, même dans des mondes masculins. Je suis, en tout cas, je suis quelqu'un qui se refuse aucun endroit, en fait.
Et c'est pour ça que vous êtes encore célibataire ?
La
question de
Henna,
justement. Pourquoi ?
Ah oui, non, j'ai déjà été mariée auparavant.
D'accord.
Si je suis célibataire aujourd'hui, je pense effectivement que, justement, dans l'épisode de l'amour, on en parle. L'autonomie fait peur. Généralement, les hommes ont l'impression qu'ils peuvent nous aider en rien, en fait. Généralement, c'est parce qu'on cherche, on cherche pas quelqu'un qui subvienne à nos besoins. En tout cas, à l'âge que j'ai aujourd'hui, pas du tout. Et donc, ils ont besoin de sens. Et le sens, c'est cette impression-là, en tout cas, que j'ai, c'est que ils ont besoin de sens en estimant qu'on est en détresse ou qu'on a besoin d'aide à tout va. Et en fait, non, ici, c'est plutôt un partenaire.
Absolument.
J'ai pas besoin de quelqu'un qui pense me sauver. J'ai pas besoin de sauveur. J'ai plutôt un partenaire. Mais après, voilà, il y a aussi on m'en parle, mais tout ce qui est réseaux sociaux, évidemment, ça change beaucoup. Mais me concernant, je sais généralement, c'est que je suis incroyable, trop intelligente, magnifique, mais je fais peur. Mais c'est peur.
Fait peur parce que indépendante.
Bien. Parce qu'autonome. Parce que trop autonome et donne l'impression d'avoir besoin de personne.
Alors, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on hérite justement de grandir dans un environnement 100% féminin, 100% autonome. On peut pas faire autrement, je pense.
Exactement. C'est tout à fait ça. Après, je pense aussi que c'est le job. Le job aussi, ça effraie. Et effectivement, on peut pas sortir du paradigme dans lequel on était.
Ouais.
Je peux pas faire semblant. De pas savoir, effectivement, d'avoir énormément de contacts, de travailler autant avec des hommes et des femmes, et de tout simplement, oui, d'être quelqu'un de passionné aussi, parce que j'ai mon boulot, mais j'ai des projets. Ben, Tarsella, c'est un projet. Tarsella, c'est un projet que j'ai écrit, à côté de mon boulot, je suis autant indépendante qu'employée, et c'est des choses que je fais en plus, donc, généralement, on me dit, purée, on a l'impression que tu dors pas. Il est possible que je dors pas beaucoup,
ouais.
mais je suis hyper passionnée par ce que je fais.
Alors justement, quand vous parlez de ces hommes, est-ce que c'est des maghrébins ? Est-ce que l'homme occidental est différent de l'homme maghrébin ou bien ils ont tous peur de la femme autonome ?
Moi, je vais dire beaucoup plus de maghrébins. Beaucoup plus de maghrébins. Si on parlait d'Européens, avec une femme comme moi, un introverti, il a du mal.
Ouais.
Quelqu'un de trop calme a du mal, on va dire. Mais c'est vrai qu'avec les Européens, c'est 10 fois plus facile. On va être très honnête. Et même, on va dire l'Afrique centrale, par exemple, c'est aussi des personnes qui n'ont pas trop du mal avec une... Justement, je viens de rentrer de Kinshasa, j'avais rencontré des personnes là-bas. On a eu cette discussion par rapport à la femme indépendante, autonome et tout. Et ils me disaient là-bas à Kinshasa, donc les Congolais, en fait, on n'a que ça ici.
Des femmes indépendantes.
Des femmes indépendantes, des femmes qui gèrent la famille. La femme africaine est une femme indépendante. Et c'était quelque chose que je n'avais pas réfléchi, en tout cas. C'est des chouettes échanges que j'avais eu là-bas. Et donc, oui, c'est pas forcément européen. Donc, le Maghreb, c'est une partie. Je pense qu'il y a le côté machiste qui va avec et qui est très, très concentré de ce côté-là. Mais sinon, oui, on va dire que c'est pas, en tout cas, rien. C'est pas l'Afrique, quoi. C'est pas partout.
Mais Henna, elle pourrait accepter un nom maghrébin?
Oui, totalement.
Aujourd'hui
c'est
marie-toi
seulement.
Marie-toi seulement, c'est vrai ? Ça a toujours été le cas ?
Oui, c'est vrai. Comment ?
Ça a toujours été le cas ?
Non, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Ma tante s'est mariée avec un Italien. Ça a pris un peu de temps avant que Henna puisse l'accepter. Elle avait elle avait peur justement, peur de perdre la culture, de perdre la religion. Elle le dit dans l'épisode, on a parlé. Hein.
Oui.
Parce que j'ai parlé du racisme vis-à-vis des Noirs et les Marocains en général. Et on a découlé de tous les mariages mixtes existants. Et puis celui qu'on a dans notre propre famille. Mon oncle est avec une Belge. Ma tante, il est décédé entre-temps. L'Armo était italien, son mari était italien. Donc, oui, non, nous, il y a ma mère qui est avec un Marocain. Donc
aujourd'hui...
Donc, nous, les mariages mixtes, ils ont toujours été là.
Ouais.
Plus facilement pour mon oncle, difficilement pour ma tante.
Ouais, parce que c'était un homme.
Exactement.
Alors, Wahiba Yachou, qu'est-ce que vous voulez que les femmes de notre communauté puissent retenir de votre parcours de vie?
Posez-vous des questions. N'ayez pas peur de penser différemment. Apprenez à vous connaître vraiment avec si vous avez une double nationalité, apprenez à vous connaître. Et n'ayez pas peur de ce que vous pensez. Et soyez vous-même.
Certains peuvent parfois penser que lorsqu'on se connaît bien et qu'on connaît sa valeur, c'est une forme d'arrogance.
Moi, je trouve que c'est la petite arrogance à avoir pour pas se perdre. Parce que si on commence à, par exemple, descendre ses standards, descendre la personne que nous sommes pour faire plaisir aux autres, en fait, je veux vous le dire, vous allez être malade dans quelques années. Tout simplement, vous allez regretter. C'est pour ça que je l'ai dit. C'est que moi, je ne peux pas changer qui je suis. Je ne peux pas changer la famille chez qui j'ai grandi.
Absolument. Eh bien, Wahiba...
Je ne peux pas faire ça. Hein.
Ouais. Wahiba Yachou, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci pour l'invitation, Yasmine.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.